إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زلنا في قراءة كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله جل جلاله فما زلنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم وقال المؤلف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة رواه وكيع وله أيضا أوله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن فقال هنا الشيخ صالح حفظه الله تعالى بقي في تتمة الباب ما رواه أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه طيب فقال هنا أولا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في قوله من عقد لحيته أي اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق كما أن ذلك هو السنة لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب منها الافتخار والعظمة فتجد أحدهم يعقد أطرافها أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قومه والسبب الثاني الخوف من العين لأنها إذا كانت حسنة أو جميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة فمن عقدها لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه Donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre lecture du livre Tamhid, l'explication du kitab Tawhid, du Cheikh Salih al-Sheikh, حفظه الله تعالى. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant ce qui est parvenu des Ruqa et des Tamaim, hein, de la Ruqya et du talisman. Donc il nous reste à voir la fin de ce chapitre, dans lequel donc il dit ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, et ce qu'a rapporté Ahmed, selon Rouwayfi'a, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Rouwayfi'a, il se peut que la vie, yani que ta vie dure longtemps après moi, informe donc les gens que celui qui attache sa barbe. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Il dit le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, par rapport à sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui attache sa barbe. Donc il faut savoir une chose, c'est que la barbe, donc chez les Arabes, à l'époque même anti-islamique, n'était pas raccourcie, hein, n'était pas diminuée, ni raccourcie. Alhamdulillah. Et encore moins, donc, rasé. Comme cela est connu aujourd'hui, donc, dans la sunna. Taïeb. Mais, il faut savoir qu'ils avaient l'habitude d'attacher leur barbe. Pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'était l'orgueil. Ou, l'élévation, pour s'élever. Donc tu voyais certains parmi les Arabes qui attachaient les extrémités de leur barbe ou attachaient ce qu'il y avait au milieu avec un seul nœud, yani, afin de montrer aux autres que c'était une personne importante, hein, une personne éminente, voyez, ou que c'était le chef de son clan, par exemple. L'une de ses causes également était la peur du mauvais œil, le fait qu'ils craignaient le mauvais œil. Taïeb, donc lorsque ils avaient une barbe qui était belle, hein, qui était bien formée, alhamdulillah, eh bien, ils faisaient exprès de la nouer, de l'attacher, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle devienne laide, croyant et se préserver ainsi du mauvais œil. Donc il dit ici, celui qui attache sa barbe pour ces raisons-là, eh bien, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se désavoue de lui. Non. Thumma qala aw taqallada wataran. طيب فقال هنا هذا الحديث وارد في باب ما جاء في الرقى والتمائم وفيه ذكر تقلد الوتر وأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وترا وقد تقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت وهذا الحديث في معنى. Donc il dit le Cheikh Saleh Hafidhahullah Ta'ala par rapport à ce hadith de Rouwayfi'a, il dit ce hadith a été donc mentionné dans le chapitre ce qui a été parvenu dans ou au sujet des Ruqa et des Tamaim. Et on a dans ce hadith donc la mention du fait également de mettre autour de sa monture ce qu'on appelle un watar, donc une genre de corde autour de du cou de sa bête. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue donc celui qui fait ça. Et on a vu déjà dans le hadith d'Abi Bashir radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un messager afin de dire aux gens de ne laisser autour du cou d'aucune bête ce genre de corde, de collier, hein, où il a dit, dans une version, il a dit également de qilada, de collier, donc de ce genre de corde, ce genre de corde que l'on mettait autour du cou de la bête sans qu'elle ne soit coupée. Donc il a ordonné à travers son messager de couper tout ce que les gens avaient mis autour du cou de leur bête ou de leur monture. Donc ce hadith, celui de Rouwayfi'a, il vient donc confirmer et dans le même sens que celui de Abu Bashir radiallahu anhu. ثم قال الشيخ صالح بدر الله وقوله في هذا الحديث تقلد وترا فيه تقييد بالوتر وهذا له مفهوم وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي بل إلى القلادة التي يعتقد فيها أنها تدفع العين وخص الوتر منها هنا لأن أهل الجاهلية كانوا يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخرق أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأبعرة وأما مجرد التقليد فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر هدية وأيضا فتلت له القلائد وعلق القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي فالتقليد هنا خص بالوتر فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنه ينهى عنها ولهذا قيدها في حديث أبي بشير الأول بقوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ومنها هنا بيانية وكذلك هنا قال أو تقلد وترا وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي قلد تميمة نعم في la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith تقلد وترا c'est-à-dire mettre autour du cou de la bête ce water, cette corde hein? Ici il a spécifié cette chose que l'on met autour du cou, il a spécifié par cette corde que l'on appelle al-watar. D'accord? Et bien sûr, cela est compréhensible. C'est-à-dire le fait que l'interdiction n'est pas le simple fait de mettre quelque chose autour du cou de l'animal, taillé, mais c'est le fait de mettre quelque chose autour du cou de l'animal. Dans l'occurrence ici, cette corde, avec la croyance spécifique que cela repousse le mauvais œil. D'accord? Donc ici, il a spécifié le watar. De manière particulière. Pourquoi? Parce que les gens de l'époque pré-islamique, ils faisaient cela. Ils mettaient autour du cou de leur bête ces outar, ces types de cordes-là, et ils accrochaient même des fois du tissu ou des poils ou des os afin de repousser le mauvais œil de leur chameau. Voyez. Mais sinon, quant au fait de mettre quelque chose autour du cou de la bête, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait yani, pour que l'on distingue les hadis, c'est-à-dire les bêtes qu'il allait sacrifier yani, à Mecca ou Haram. D'accord? Pour les différencier, pour les distinguer des autres. Voyez? Et donc, on lui tressait même des qala'id. Donc, ces choses que l'on mettait autour de la bête. Et donc, il accrochait ces bêtes-là avec ses qala'id. Ce genre de collier. Afin de montrer que ce qu'il envoyait comme bête à Mecca, eh bien, c'était dans le but d'être sacrifié dans le haram pour Allah tabaraka wa ta'ala. طيب اذا الهدي سي في سكي دونك ساكريفي دون الحرام parmi les bêtes de troupeaux telles que les chameaux, les vaches, les moutons hein, ou les caprins. طيب نعم الحمد لله. Donc il dit et taqlid, le fait de mettre quelque chose autour du cou de la bête ici, ça a été spécifié par ce genre de corde qui est el watar, d'accord. Donc c'est-à-dire ce collier que l'on mettait autour de la bête ou autre, yani, en ayant bien sûr, une croyance. Taïeb, et la croyance qui était spécifique chez donc ces gens-là, les gens de l'époque pré-islamique, etc. Et donc, c'est ça qui est interdit. C'est pour cela ici que également dans le hadith d'Abu Bashir, radiallahu anhu, cela a également été spécifié à travers la parole du prophète. Lorsqu'il a donc envoyé les messagers, il a dit afin que l'on laisse autour du cou des bêtes aucun collier fait de watar. Qiladatun min watar. Donc le min ici, c'est un min qui est bayaniya, c'est-à-dire qui vient expliquer et détailler ce qu'est ce collier-là qu'il fallait couper. Et que ce n'était donc pas n'importe quel collier que l'on devait couper. D'accord? Également dans ce hadith, donc aussi, ou qui met autour de la bête un wata, ici, le sens il est clair, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du fait de mettre autour de la bête un watar, cette forme de corde avec la croyance de repousser le mauvais œil, etc., eh bien, en vérité, ça revenait au fait de mettre autour de la bête une tamim, hein, un talisman ou une amulette. Cela revenait à la même conséquence. Naam. وقوله في هذا الحديث فإن محمدا بريء منه هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل من الكبائر لأن مما يستدل به على كون الفعل أو القول من الكبائر أن يقال عن مرتكبه الله ورسوله منه بريئان أن يتبرأ أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه لأن ذلك يدل على عظم المعصية وأن الشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد كالزنا والسرقة وشرب الخمر هي من حيث جنس المحرم والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر ولهذا نقول إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذم والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك طيب Donc la parole ici de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit certes Mohammed se désavoue de lui. D'accord? Se désavoue de lui. Naam. C'est-à-dire de celui qui noue sa barbe, qui attache autour de sa bête un watar, hein, et jusqu'à la fin du hadith. Jusqu'à la fin du hadith, je vais traduire inshallah, ou celui qui se purifie avec les crottins d'une bête ou un os, certes Mohammed se désavoue de lui. Donc ici, l'expression Mohammed se désavoue de lui fait partie des expressions qui indiquent que ces actes-là font partie des péchés majeurs. Font partie des péchés majeurs. Donc parmi les signes, les indications qui nous montrent que cet acte ou que cette parole fait partie des péchés majeurs, eh bien le fait que l'on dise à propos de celui qui les a fait, par exemple Allah et son messager, se désavouent de lui. D'accord? Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. D'accord? Donc cette expression-là nous indique déjà la gravité de ce péché. Nous indique aussi que le shirk al-asrar, le polythéisme mineur, fait partie aussi des péchés majeurs, bien sûr. Comme le polythéisme majeur fait partie des péchés majeurs. Taïeb. Il faut savoir une chose, qui est que al-kaba'ir al-amaliya, les péchés que l'on appelle les péchés majeurs amaliya, c'est-à-dire au niveau des actes, c'est-à-dire qui ne comportent pas de croyances particulières, hein, telles que la fornication, le vol, la consommation d'alcool,
Donc ces trois péchés-là, la fornication, le vol, la consommation d'alcool, au niveau de leur nature de péché, au niveau de leur interdiction et de leur statut de péché majeur, eh bien, il faut savoir qu'ils sont à un degré inférieur au niveau de leur nature, au niveau de l'interdiction, au niveau de la gravité. Ils sont à un niveau inférieur par rapport au shirk el-asrar, par rapport au polythéisme mineur. Et bien sûr, à plus forte raison, par rapport au polythéisme majeur. C'est la raison pour laquelle nous disons que la nature du shirk el-asrar, comme le fait de prendre, de mettre des talismans ou autre que cela, eh bien, sa nature, elle est plus grave au niveau du péché. Elle est plus grave au niveau de la gravité et de la grandeur du péché. Cela est plus grave que quoi? Cela est plus grave que les péchés majeurs au niveau des actes et qui ne sont pas accompagnés, bien sûr, lors de leurs actes de croyances particulières, telles que la fornication, le vol, la consommation d'alcool, encore une fois, autre que cela. Voyez. فقوله وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يعني كان كتحرير رقبة وهذا فيه فضيلة قطع التمائم وذلك لأنها شرك بالله جل وعلا والشرك الأصغر مدخل للنار وفاعله متوعد بالنار كما في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ونحو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وفي نحو قوله أيضا من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار فمن قطع تميمة من عنق من علقها فهو في مقام اعتاق رقبة هو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس فعله فكما أنه اعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل اعتاق رقبة أي في الأجر. طيب. Donc il dit ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, selon Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, qui a dit, celui qui coupe une amulette d'une personne, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. C'est comme s'il avait libéré, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Donc ceci, c'est le mérite du fait de couper donc les tamaim. Pourquoi? Parce que tamaim, on l'a vu, c'est du shirk. C'est de l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk mineur fait entrer en enfer. Et celui qui le fait, il est sous la menace de l'enfer. Comme dans la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, certes Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit. Également la parole du prophète, alayhi salatu wa salam, celui qui meurt en ayant invoqué en dehors d'Allah un égal entrera en enfer. Également la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt en ayant associé à Allah quelque chose entrera en enfer. Donc celui qui coupe une tamima, une amulette du cou de celui qui se l'a accroché, eh bien il fera partie de ceux qui affranchissent, les gens de l'enfer. C'est comme s'il avait affranchi cette personne-là, en lui coupant son tamima, c'est comme s'il l'avait affranchi de l'enfer. Parce que cet acte-là fait partie des actes qui entraînent la menace de l'entrée en enfer. Donc, lorsqu'il a coupé cette tamima, eh bien, sa récompense, elle est de la même espèce que son acte. Sa récompense, elle est de la même espèce que son acte. Comme il a affranchi, ce musulman du feu de l'enfer, eh bien, il est récompensé également par la récompense de l'affranchissement d'un esclave. طيب هذا واضح كما قال الشيخ العثيمين وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق رقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك طيب ففكه من النار ولكن يقطعها بالتي هي أحسن لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة Donc une chose importante ici, qu'a dit le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Il a dit ici, donc déjà, la comparaison, elle est claire entre le fait de couper une amulette et le fait d'affranchir un esclave. D'accord? C'est-à-dire que lorsque la personne a coupé l'amulette d'une personne, c'est comme si elle l'avait Yani libéré du shirk. C'est comme si elle avait libéré du shirk. Et ainsi, elle a libéré, elle a affranchi également du feu de l'enfer. D'accord? Mais attention ici. On doit faire cet acte-là de la meilleure des manières. Et de la manière la plus douce qui soit. Taïeb? Parce que la rudesse ou la violence, elle entraîne toujours. Surtout de nos jours, elle entraîne toujours les querelles, la dispute. D'accord? Donc toi, si tu trouves quelque chose, une amulette, un talisman, dans la voiture de quelqu'un, ou dans la maison de quelqu'un, ou autour du poignet de quelqu'un, ou de son cou, n'y va pas avec violence. N'arrache pas cet objet-là avec violence, avec rudesse, parce que cela entraînera forcément des disputes, une querelle ou une distanciation. Taïeb, sauf si bien sûr tu fais partie des gens qui possèdent une autorité, telle que le gouverneur, le dirigeant, le juge ou autre, qui détient une autorité particulière. Dans ce cas-là, bien sûr, tu pourras couper cet objet-là, ce talisman, directement, parce que tu en as le droit, alhamdoulilah. Mais sinon, tu dois faire cela avec de la meilleure des manières, et avec diplomatie, en expliquant à la personne, en détaillant, en lui ramenant les preuves, en lui parlant, en discutant avec elle, voyez, en essayant de comprendre déjà pourquoi elle fait ça, et ainsi de suite. Voyez. وهذا القول من سعيد بن جبير رحمه الله محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم لأن هذا مما لا يقال بالرأي وإذا كان كذلك فله حكم المرسل لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان فيكون ذلك من قبيل المرسل يعني من قبيل المرفوع والسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا وفي حجية المرسل كلام فالإمام أحمد ومالك يحتجون بالمرسل وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل ومنهم من يجعل له شروطا كالشافعي ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب كما ها هنا طيب نعم Donc, il dit ici, cette parole-là de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, on peut considérer, dit le cheikh, qu'elle fait partie de ce qu'il a entendu des compagnons, radiallahu anhu. Parce qu'il dit que ceci, ce genre de paroles-là, ne peut pas être dites à partir d'une opinion ou d'un avis. Donc à partir de là, il dit que ce hadith, il est mursel. Ce hadith, il est mursel. Pourquoi? Parce qu'il contient un mérite qui est particulier et mis ici, ou mentionné ici par Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, pour celui qui coupe une amulette du cou d'une personne. D'accord? Donc ce hadith, on dit qu'il est mursel, il dit les chers, c'est-à-dire qu'il est marfou', qu'il remonte, yani, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car cela ne peut pas être, ne peut pas avoir été émis, hein, à partir d'un avis ou d'une opinion. Et il faut savoir que Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i, fait partie des compagnons de Ibn Abbas, radiyallahu anhumah. Donc ce hadith, il est mursal. Tayyib. Donc le hadith mursal, l'une des définitions les plus connues, c'est ce qui a été rapporté par un tabi'i du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit une parole, un acte, une approbation, taïeb, que le tabi'i soit fait partie des petits tabi'in, des plus jeunes, ou des plus âgés. D'accord? Donc ça c'est la définition la plus connue, notamment chez al-muhaddithin, les savants du hadith. Naam. Faut savoir que les savants, ils ont divergé sur peut-on se servir des hadiths qui sont mursal, taïeb. Donc l'imam Ahmed ainsi que Malik disent qu'il est permis de se servir de ces hadiths mursal. Et également l'imam Abu Hanifa dit la même chose. Mais certains ont émis des conditions pour pouvoir justement se servir du hadith qui est mursal, tel que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. D'autres disent que on peut se servir des hadiths marasil, mursal, si leur sens il est connu, hein, dans le chapitre qu'il concerne. قال بعض أهل العلم قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك الاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول الصحابي يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد الصحابي وهذا ليس بقوي لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي فلا بد أن يكون إذن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهاد وقول الأول هو المعروف وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. Donc il dit, d'autres savants disent que la parole du tabi'i dans des choses qui ne peuvent pas, yani, être dites à travers un ijtihad, un effort de réflexion, c'est-à-dire un avis ou une opinion, d'accord? Eh bien, on va dire que cela provient de la parole d'un compagnon. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un tabi'i qui a entendu cette parole-là d'un compagnon, d'accord? Et que c'est un ijtihad de la part du compagnon. C'est un effort de réflexion qui vient du compagnon, et pas du tabi'i. Mais cela n'est pas fort, dit le Cheikh Salah, fidallah ta'ala. Parce que si on dit que cela a été entendu de la bouche d'un compagnon, on pourrait dire également que le compagnon, lui, ne peut pas l'avoir dite à travers une opinion ou une idée non plus. Donc il est forcément, cette parole-là, elle est forcément prise de ce que le compagnon a entendu de la bouche du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce genre d'information contenue dans le hadith ici de Saïd ibn Jubayr ne peut pas être touchée par l'effort de réflexion. D'accord? Donc la première parole, c'est celle qui est connue, et ce genre de hadith, on dit qu'il est mursal, et on a vu les divergences au niveau de est-ce qu'on peut s'argumenter ou pas avec un hadith mursal. Al-Muhim. Qawluhu. وله يعني لوكيع عن إبراهيم هو إبراهيم النخعي رحمه الله تلميذ ابن مسعود، وإبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود. قوله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة وكالربيع بن خثيم وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء. Puis il dit, à la fin du chapitre, et selon lui également, c'est-à-dire selon Waqi' rahimahullah ta'ala, an Ibrahim, selon Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, qui était un des élèves de Ibn Mas'ud. Ibrahim al-Nakha'i, un des élèves d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et qui est donc un savant des gens de Al-Kufa après Ibn Mas'ud. Donc il a dit Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah, il détestait toutes les amulettes, qu'elles soient du Coran ou pas. C'est-à-dire, donc il parle de qui ici quand il dit il? Il parle des compagnons de Ibn Mas'ud. Hein? Les compagnons d'Ibn Mas'ud, c'est-à-dire les élèves d'Ibn Mas'ud, tels que Al-Aswad, Al-Qama, Rabi' ibn Khuthaym, ou Ubaïda, Al-Salmani, et autres que cela. D'accord? Donc il a dit, les compagnons d'Ibn Mas'ud détestaient toute forme d'amulette. Que ces amulettes-là soient tirées du Coran ou pas. D'accord? قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد تبرك والزينة كالقلائد الذهبية أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة أو آية الكرسي أو القرآن كاملا فهذا كله من البدع فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه إنما يستشفى به على ما جاء به شرع. Et pour finir, inshallah ta'ala, il a dit, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qu'aujourd'hui, à notre époque, les gens n'accrochent plus le Coran pour se soigner, comme pouvaient le faire à l'époque certains salafs. Aujourd'hui, ils ne le font plus pour se soigner, mais c'est juste pour, soi-disant, rechercher de la baraka, de la bénédiction, ou pour tout simplement embellir sa maison, embellir sa voiture, ou s'embellir soi-même. Comme ceux qui mettent des chaînes en or, ou des bijoux, sur lesquels il y a écrit le nom d'Allah, tabarak wa ta'ala, ou le verset d'Al-Kursi, ou carrément le Coran entier. D'accord? Donc toutes ces choses-là font partie des innovations religieuses. Car le Coran n'a pas été descendu pour que l'on se soigne de cette manière. Il a été descendu pour qu'on se soigne avec de la manière qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a légiféré. Na'am. Alhamdulillah. Naktafi bihada bi'idhnillah azza wa jalla. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va lire les commentaires la semaine prochaine sur les différents enseignements de ce chapitre, inshallah ta'ala, avant de passer au chapitre suivant. Wa l'ilma indallah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima. Jazakumullahu khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.